Tu m'entends là?
Oh, le clash avec un V! Dans la place! Ce soir, on représente pour tous les MC du Warriors. Pour fight jungle massif dans ta face!
Écoutez, excentrique est un mot que je n'aime pas beaucoup parce que excentrique souvent signifie avec une petite pointe de mauvais goût.
Que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
Au début du 19e siècle, le goût pour les contrastes dynamiques semble s'être généralisé au point que les nuances extrêmes et les sauts entre pianissimo et fortissimo passent dans le langage musical usuel. Dans la même période, on semble porter une attention de plus en plus soutenue à l'homogénéité de la couleur de la voix ou d'un instrument dans tous les registres de sa tessiture. Dans ce contexte qui passe volontiers les questions d'expression au crible des connaissances scientifiques, l'Académie des sciences s'en mêle en lançant en 1840 un appel pour que les chercheurs donnent des explications anatomiques, acoustiques et physiologiques aux mécanismes de la voix humaine. Les mémoires et traités sur la voix fleurissent, les médecins et les profs de chant croient parler de la même chose, alors que sans doute pas tout à fait. Parmi eux, il y en a un qui est à la fois médecin et professeur de chant au conservatoire, Manuel Garcia Fis, qui va pousser l'investigation jusqu'à développer un laryngoscope pour examiner le fonctionnement du larynx en train de chanter. Le dit laryngoscope est devenu un objet patrimonial qui a été acquis par le Centre Européen de Musique à la Villa Viardot, du nom de Pauline Viardot, la sœur de Manuel Garcia Fis, et c'est justement à la Villa Viardot, à Bougival, à l'occasion de sa réouverture au public après sa restauration, que le Centre Européen de Musique a offert à Métaclassique le soin d'inaugurer ses salons pour enregistrer cette émission et offrir un premier événement à la mesure de ses enjeux en sondant l'histoire du laryngoscope et à travers lui des débats scientifiques qui entouraient la voix lyrique à la grande époque du bel canto. Pour ce faire, nous accueillons Michel Castelingo, chercheuse CNRS au laboratoire d'Alembert, qui a signé en 2015 aux éditions Erol Écoute musicale et acoustique, mais aussi l'historien du chant Pierre Giraud, qui enseigne à l'université de Toulouse, et Alessandro Patalini, qui enseigne le chant au conservatoire Frescobaldi de Ferrara, qui a édité quelques-unes des méthodes de Manuel Garcia père et fils en Italie. Et puis en fin d'émission, nous recevrons celui sans qui nous ne pourrions être dans cette Villa Viardot, le président fondateur du Centre Européen de Musique, Georges Chaminet, qui est à l'origine de la restauration de la Villa Viardot et de l'acquisition du laryngoscope de Manuel Garcia Fis. Un extrait du Barbier de Séville de Rossini par Fernando De Lucia, un enregistrement de 1904 que Manuel Garcia Fils aurait pu entendre puisqu'il est mort en 1906 à l'âge de 101 ans puisqu'il était né en 1805. Bonjour Pierre Giraud.
Bonjour.
En quoi est-ce qu'on pourrait dire que Fernando De Lucia à l'oreille serait reconnaissable comme un héritier de la méthode Garcia ?
Dans la tradition des ténors, Giorgetti d'ailleurs allait travailler avec De Lucia, on a... Ce répertoire qui nous vient de Garcia Père, hein, déjà de l'époque de Rossini, et qui traverse tout le XIXe siècle, avec quand même des demandes, des traditions, des particularités, qui sont très bien consignées par Garcia Fils, hein, dans la méthode où il exprime tout le legs musical de son père, cet immense interprète et compositeur. Et voilà ce qu'on entend encore là dans la subtilité avec laquelle De Lucia... utilise la voix mixte, utilise une fois effectivement la voix de poitrine, une fois quelque chose de plus léger, toujours très clair dans le timbre. Et donc ça, c'est, je pense, quelque chose qui nous suit, hein, dans ce questionnement autour des mécanismes, puisque Garcia était ténor, Garcia Fils était ténor, son élève Bataille, dont on parlera peut-être tout à l'heure, était ténor aussi. Mmh. Donc il y a cette tradition assez européenne, en vérité, hein, de cette école espagnole, en italien, ça se passe en France, ça va à Londres aussi. Donc là, voilà, c'est pour ça que cet extrait, je crois, nous situait un petit peu esthétiquement.
Alors, on va déplier tout ça. Tout d'abord, Alessandro Patalini, bonjour.
Bonjour.
Peut-être pour commencer, clairement, qui était Manuel Garcia Fils ?
Oh, Garcia était un génie, certes, mais un génie particulier. Omnivore, multidisciplinaire, un vrai chercheur. Il était un exemple vivant de la fusion entre différentes disciplines et cultures. On pourrait le définir un champion des intersections culturelles. Espagnol par naissance et par caractère, italien pour sa formation musicale et vocale, français pour la formation intellectuelle, scientifique et pour la langue, anglais pour choix de vie. Une figure extrêmement actuelle, un précurseur, un vrai citoyen de l'Europe, si l'on considère que notre continent, à l'époque, s'est composé des nations en conflit les unes avec les autres, alors qu'aujourd'hui, elles sont fortement unies et solidaires autour de valeurs largement condivisées, comme la musique. Garcia fut orienté par son père vers l'étude de la musique et du chant, le métier des familles. Mais il était fortement attiré vers les disciplines scientifiques, la physique, la mathématique, la physiologie. Il était donc formé à la comparaison des différentes disciplines. On peut dire qu'il avait la passionnalité, l'inquiétude de sa sœur Maria Malibran, et la calme ténacité, la patience de sa sœur Pauline Viardot.
Pourquoi est-ce que cette figure de Manuel Garcia Fils, pour vous qui enseignez le chant au conservatoire de Ferrare, elle est importante aujourd'hui ?
Oui, on doit considérer qu'avant d'inventer le laryngoscope, Garcia avait déjà réaliser la systématisation la plus profonde et la plus détaillée des connaissances de l'art du chant italienne du XVIIIe siècle, et dans le mémoire sur la voix humaine et dans le traité complet de l'art du chant. En effet, avant Garcia, les procédures didactiques étaient totalement empiriques. Garcia réussit en grande partie à décrire les chants en comparant les connaissances anatomiques et physiologiques avec l'écoute de son, l'observation de mouvements externes du larynx et la posture du chanteur. Son objectif déclaré était de relier les effets aux causes. Il décrit les différents registres, les timbres, la respiration, sans savoir ce qui se passait réellement à l'intérieur du larynx. Malgré ses excellents résultats, il avait encore des doutes et il voulait observer l'organe vocal en mouvement. Alors, quelques années plus tard, l'invention du laryngoscope fut la réponse à ce besoin. Le laryngoscope est donc né comme un instrument de connaissance artistique avant d'être physiologique au sens large du terme.
Bonjour Michel Castelango.
Bonjour.
Alessandro Patalini vient de nous expliquer qu'en effet, il invente le laryngoscope après avoir élaboré théoriquement bien des choses sur le fonctionnement de la voix humaine. Donc ça va lui servir à confirmer un certain nombre de choses déjà théorisées pour mettre des dates. Donc il invente le laryngoscope en 1854, mais il publie déjà ce mémoire sur la voix humaine en 1840.
Disons que c'est un peu plus compliqué parce que le laryngoscope existait, mais lui a su s'en servir. Parce que ce n'est qu'un petit miroir pour regarder dans le fond de la gorge.
Oui.
Pour comprendre ce qui se passe, il faut tenir la tige du miroir de façon précise. Il faut orienter la lumière et il faut savoir regarder dans la gorge. Or, d'autres personnes avant lui s'étaient servies du laryngoscope et n'avaient rien compris. Et le génie de Garcia, c'est d'avoir, initialement, il avait fait des dissections sur des larynx. Il s'était intéressé vraiment du point de vue médical. Il avait une petite formation médicale. Et donc, il a su tout de suite où aller voir. Et comme il chantait, il s'est observé en chantant et en faisant les changements de registre ou de mécanisme selon les termes qu'on utilise.
Parce que sa question, quand il se met un laryngoscope devant le larynx en quelque sorte tout en chantant...
Ah non, il faut le mettre dedans.
Ah, il faut le mettre dedans, mais qu'est-ce qu'il questionne ?
C'est un petit miroir comme de dentiste, mais le dentiste, il ne va pas... Il ne me fait pas voir là-dedans, nous. Mais lui, il peut regarder là-dedans.
Et la question qu'il se pose, c'est qu'est-ce qui change dans le larynx au moment où je passe de la voix de poitrine à la voix de tête ?
Il a parfaitement vu que... D'abord, il fallait identifier qu'est-ce qui produit la vibration. Mmh. Et il parle de, je ne sais plus quel est le terme qu'il utilise, de bandes élastiques, qui sont en fait les cordes vocales, comme on les appelle aujourd'hui, ou les tendons vocaux. Et il dit, quand on passe de la poitrine à l'aigu, ça n'est plus toute la largeur qui vibre, mais seulement le bord. Et ça, il l'a identifié, mais il fallait savoir déjà avant ce qu'il fallait regarder. Mmh. Et c'est ça son génie. C'est qu'il avait tellement réfléchi, il a vu ce qu'il pensait déjà. Et c'est effectivement cette observation qui est fondamentale. Et c'est pourquoi tous ceux qui avaient utilisé le laryngoscope avant n'avaient rien compris.
Alors, pour bien voir la réalité lyrique de ce genre de questionnement, à ce moment-là, on va écouter un extrait d'un opéra de 1825 qui s'appelle « La Dame Blanche » de Boieldieu, que donc Garcia a pu, je ne sais pas s'il l'a chanté, ou si en tout cas l'entendre, et qui va nous donner à entendre comme ces changements de registre vont pouvoir être esthétiquement investis. On écoute l'extrait, et puis vous nous le commentez, Michel Castelango. C'est David Dries qui chantait en 1927 cet extrait de La Dame Blanche. Qu'est-ce que vous écoutez là, Michel Castelango, dans cet extrait ?
Les changements de qualité de la voix qui sont admirablement maîtrisés par David Dries. Et il joue avec le changement de mécanisme quand on... Alors, le mot mécanisme...
C'est vous qui le mettez, le mot mécanisme, un peu à la place de registre, parce que, alors, oui, parce que le mot registre vous gêne.
Il y a toujours eu un problème de vocabulaire dans la voix. Hein. C'est d'ailleurs ce qui, on y reviendra, reste un tout petit peu problématique dans la méthode de Garcia, qui continue à utiliser le registre de Fossettat jusqu'à la fin de sa vie. Mais ça, c'est une parenthèse.
Non, on en parlera tout à l'heure, mais précisément, il faut d'abord poser les enjeux, c'est-à-dire pourquoi est-ce que vous utilisez le mot mécanisme et pourquoi vous pouvez
faire ça. Pour éviter justement l'ambiguïté des termes qui dépendent des chanteurs, des écoles esthétiques et des pays aussi. Oui. Savez-vous que le mot registre qui apparaît dans la première méthode du Conservatoire de Paris est emprunté à l'orgue, c'est dit clairement. Mmh. Nous appelons registre comme dans l'orgue, il y a un registre de tuyaux qui ont les mêmes sons. Ah ben, on va employer le mot registre pour la voix. Mais en fait, dans la compréhension de la voix, il faut laisser de côté le timbre et penser à la production du son. Et c'est pour ça que nous avons utilisé le terme mécanisme, qui n'est pas très joli, mais au moins il est sans ambiguïté. On est au niveau de ce qui fait le son. C'est-à-dire la vibration dans le larynx.
C'est-à-dire que ce qui fait la différence entre une voix de poitrine et une voix de tête, c'est le nombre de vibrations à la seconde. Non, c'est...
Pas du tout. On peut très bien, sur la même note, chanter tantôt cette note avec... Enfin, pas sur toute l'étendue de la voix, dans le médium de la voix, entre le do 3 et le sol 3. Oui. C'est-à-dire entre le do en dessous de la clé de sol et le sol à peu près. C'est la zone dans laquelle...
Pour les hommes?
Non, c'est commun aux hommes et
d'accord,
aux femmes.
D'accord.
Mais les femmes, on ne les étudiait pas. Ça, c'est autre chose. C'est un problème de société. Bon, donc, pour les hommes qui utilisaient beaucoup l'aigu de leur voix, c'est dans cette zone-là qu'on pouvait changer et que les chanteurs travaillaient de façon à ce qu'ils atteignent un timbre similaire et surtout qu'ils puissent passer du premier au deuxième mécanisme sans qu'on entende un petit hoquet. Manuel Garcia utilise le terme de hoquet. Et d'ailleurs, dans sa méthode, il y a plein d'exercices pour travailler la disparition du fameux hoquet. Alors, ce que nous avons entendu avec David de Vries, c'est qu'il a une habileté diabolique, il passe de l'un à l'autre et on n'entend pas. Il est arrivé à masquer ce hoquet, à masquer le changement de production au niveau de la glotte, c'est-à-dire ce qu'on appelle la poitrine, où c'est toute la largeur des bandes ventriculaires qui vibrent, et ce qu'on appelle la voix de tête, c'est seulement les bords, enfin, c'est plus compliqué que ça, mais c'était l'observation de Garcia.
Parce que vous avez regardé un peu tous les traités qui sont écrits sur la voix dans les années 1830. Il y en a un paquet. Il y a Nouvelle théorie de la voix humaine de Malgaigne en 1831, Recherche sur le mécanisme de la voix humaine de Benatti en 1832, Précis élémentaire de physiologie de Magendie en 1833, Traité des maladies des organes de la voix de Colomba en 1834. Donc il y a une forte activité des médecins pour penser ce qui se passe dans la voix. Et il semble que dans toute cette littérature, ce qu'apporte Manuel Garcia fils est à la fois plus lumineux que les autres parce qu'il est aussi chanteur et que ça lui permet d'avoir une autre acuité.
Ah, c'est pas seulement chanteur, je crois qu'il avait véritablement un esprit rationnel et c'est le premier. Alors, je connais pas trop la méthode de son père, je ne sais pas si déjà son père faisait la différence. L'autre génie de Garcia, c'est d'avoir séparé les trois qualités de la voix. Grave aigu, fort faible, timbré ou pas timbré. Alors que les chanteurs qui essayent de parler des registres, ils s'appuient sur le son dans son ensemble.
Avec les trois variables.
Ils mélangent les trois caractéristiques. Ouais. Et le laryngoscope lui a permis de mettre le doigt sur la source qui fait le son, le nombre de vibrations. Et cette source, elle est au niveau de ce qu'on appelle les cordes vocales. Et ça, il l'a vu avec le miroir. C'est vraiment ça. Ça a confirmé ce qu'il savait. Mais quand on le voit, je ne sais pas pourquoi, mais la vue est effectivement supérieure à l'audition de ce point de vue-là. Et à partir de là, tout confirmait ce qu'il avait dit dans ses premières méthodes. Donc ça venait peut-être de son père. Autrement dit, il définit les registres indépendamment des changements de hauteur et des changements de timbre. puisqu'il y a des recouvrements entre ces deux mécanismes. Mmh. C'est-à-dire le grave, c'est la voix de poitrine, l'aigu, c'est la voix de tête, ou le fossé, comme disent les hommes, puisque pour eux, c'est imiter une femme, donc c'est fossé. Et entre les deux, il y a quasiment une octave, de, on va dire, de sol 2 à sol 3. Et dans cette octave, on peut passer d'un type de production vocale à un autre, d'un mécanisme à un autre, et tout le travail va être de égaliser l'intensité ou égaliser le timbre. Et ça, il le dit très clairement, et c'est dans son mémoire, c'est vraiment le génie. Alors que les chanteurs disaient, la voix est dans la tête, elle est dans la poitrine, ils mélangeaient tout sur la base des sensations qu'ils avaient. Et ils ne pouvaient pas s'abstraire de la production.
Alors, vous dites qu'il est plus clairvoyant que les autres, mais indépendamment du fait qu'il est chanteur, j'ai quand même l'impression que c'est bien parce qu'il est dans une recherche d'égalité vocale entre les registres qu'il arrive à cette clairvoyance, Pierre Giraud, non ?
Mais là, on a entendu David de Vries dans cet exemple où il enchaîne d'abord, il fait deux fois le même motif en faisant une fois voix de poitrine, mécanisme 1, une fois voix de tête, puis il nous fait mécanisme 1, mixe 1, mixe 2, mécanisme 2 à la suite, là, cette fois-ci en l'étageant, c'est effectivement exemplaire. C'est un exemple dans La Dame Blanche. La Dame Blanche, c'est le rôle des ténors français créé par Louis Ponchard, qui est professeur au conservatoire, qui a travaillé avec Garcia Paire. Et qui a donc sa classe au conservatoire et ses élèves. Et ses élèves trouvent que la méthode de Garcia Fils est bien, bien plus claire que ce qu'essaie de dire Ponchard, qui ne s'occupe pas trop de technique. Et donc, ils enseignent ça. Ils enseignent ça tout de suite. Et effectivement, on va donc confier à Garcia, puis à son élève Bataille, qui était lui-même d'ailleurs un médecin au départ, qui arrive de Nantes et qui devient chanteur, on va leur confier les élèves qui ont des problèmes, les élèves qui ont le moins de voix au départ, très peu points de voix, et puis on estime qu'en fait, eux pourront en tirer quelque chose. Donc tout le monde vient, Jenny Lind vient quand elle a des problèmes vocaux. On est chez des gens qui se posent des questions et donc qui ont une capacité à résoudre des problèmes et pas seulement à accompagner artistiquement, disons, des sujets dont la voix fonctionne déjà très bien. Ça, c'est très frappant.
Sur le site du Centre européen de musique, Thomas Cousin, qui prépare une thèse sur la bibliothèque de Pauline Viardot entre la Sorbonne à Paris et l'Université libre de Bruxelles, justement parle du cas de Jenny Lind. Et il nous dit qu'après une apparition à l'Opéra de Stockholm le 19 juin 1841, la voix du rossignol suédois, entre guillemets, s'est brisée, rudement mise à l'épreuve par des efforts excessifs et une mauvaise méthode de chant. Et dès le 25 août, elle débute ses leçons sous la direction donc, de Manuel Garcia, qui la prend sous son aile à raison de deux fois une heure par semaine jusqu'en juillet de l'année suivante. Et le 10 octobre 42, la diva se produit de nouveau à Stockholm et sa voix est alors considérée un peu comme miraculée. Ça veut dire que aussi parce qu'il est médecin, il reçoit un certain nombre de chanteuses, de chanteurs à problème.
Alors, il faut dire que là, on a dit qu'effectivement, les choses venaient de Garcia Paire. Garcia Paire, dans l'édition posthume française de sa méthode, dit déjà plusieurs personnes qui croient souvent n'avoir pas du tout de voix ou bien d'en avoir peu ou d'une mauvaise qualité. C'est une erreur parce qu'en général, tout dépend de la bonne ou mauvaise manière de la faire sortir. J'ai prouvé, nous dit Garcia Paire, avant l'invention de tout ça, à plusieurs de mes élèves qui se croyaient dans ce cas qu'ils se trompaient par mes soins, j'ai su leur faire trouver la voix qu'ils pensaient ne pas avoir. Donc ça, c'est quand même la mission du professeur de chant, disons toute catégorie confondue. Ce que je crois, c'est que les personnes comme Garcia Fils qui se posent ces questions de physiologie vont être à même d'apporter de nouveaux outils, de penser autrement et de sauver des gens, soit à un moment où leur technique est faillible, soit à un moment où, effectivement, on a affaire à un musicien dont la voix n'est pas encore bien définie.
C'est ça, c'est-à-dire que donc, la méthode de Manuel Garcia Fils en 1840 hérite beaucoup essentiellement de Manuel Garcia Paire et le laryngoscope va juste servir à confirmer
oui,
tout
pour
ça.
Pour vous dire combien Michel tout Castellano. Était en place déjà, si vous permettez, je vais vous lire un extrait de cette méthode de 1840. Il dit « Par le mot « registre », nous entendons une série de sons consécutifs et homogènes allant du grave à l'aigu, produite par le développement du même principe mécanique » et dont la nature diffère essentiellement d'une autre série de sons également produits par un autre principe mécanique. Tous les sons appartenant au même registre sont, par conséquent, de la même nature, quelles que soient d'ailleurs les modifications de timbre ou de force qu'on leur fasse subir. Donc il met bien la définition de registre au niveau de la production du son. Et c'est pour ça qu'avec le laryngoscope, il n'a fait que prouver, vérifier ce qu'il savait déjà en 1840. Et peut-être son père aussi, enfin je ne connais pas trop.
Alessandro Patalini, ce que va permettre le laryngoscope, c'est, on l'a dit, une auto-observation. Et qu'est-ce que ça implique que ce soit de l'auto-observation?
Oui, je voudrais souligner que l'une des images que Garcia a publiée dans son nouveau traité sommaire de l'art du chant le représente lui-même en train d'observer ses propres cordes vocales grâce au laryngoscope. Ainsi, le sujet observateur coïncide avec l'objet observé. C'est très important car il savait ce qu'il faisait en chantant. Il s'agit donc d'une auto-observation consciente qui lui permet d'objectiver une ancienne didactique empirique grâce à un procédé scientifique moderne. Garcia était à la fois un chercheur de la science moderne et un chanteur de l'ancienne école. C'est très important, selon moi.
Mais est-ce qu'on pourrait imaginer que le laryngoscope l'ait mis sur de fausses pistes? Parce qu'avec un instrument scientifique dans les mains, on peut se mettre à se poser des questions qui n'ont pas de réponse viable. Ou alors, est-ce que le laryngoscope devait résoudre complètement ses doutes sur l'action des registres?
Oui, certainement. Mais son laryngoscope ne pouvait pas résoudre ses doutes sur l'émission de sons aigus. Et ce que Garcia appelle son du registre de tête. En effet, dans ce son, les vibrations des cordes vocales sont très rapides. Et avec un laryngoscope comme celui de Garcia, les cordes vocales semblent immobiles. Alors, Garcia a donc formulé des hypothèses sur ces sons, mais il n'a pas pu donner de réponse définitive à ses doutes. En tout cas, selon moi, la limite technologique de son laryngoscope ne diminue pas la valeur de son travail et de ses observations, parce que Garcia, je le répète, n'a pas observé simplement la voix, mais le chant de son époque, et a décrit les fondements physiques d'un art très difficile à réaliser et à objectiver. Cela, selon moi, la grandeur de Garcia, qui était un chanteur et professeur de chant qui a travaillé comme chercheur scientifique pour mieux connaître l'instrument vocal, pour transmettre, partager, éduquer, et en même temps sauvegarder un patrimoine d'enseignement autrement destiné à se perdre dans les transformations constantes propres à la transmission orale.
Donc une sorte de cercle vertueux entre le chercheur, le chanteur, le pédagogue et aussi celui qui maintient une tradition qui lui vient de son père.
Oui. C'était, lui était le dernier des anciens et le premier du moderne.
Il se trouve qu'on est aussi à une époque où sur la scène, eh bien, on aime entendre manifestement des chanteurs qui vont au bord de leurs possibilités vocales et de registres. On va écouter l'exemple du Contrut dans le Guillaume Tell de Rossini, ici interprété par Nicolas Guéda.
Oh,
Un opéra de 1829, mais qui va faire le grand succès d'un certain Gilbert Dupré en 1837 sur la scène parisienne, quand il vient exhiber ce Contrut, Pierre Giraud.
Alors tout à fait, le rôle est créé par Adolphe Nourry, et on le trouve à la bibliothèque de l'opéra, la partition qu'il a utilisée, et qui est d'ailleurs corrigée. Corrigée parce que Nourry, c'était un chanteur, quand il chantait le canto Ri de Rossini, par exemple, qui aimait bien faire du canto dispalsa. Il changeait de registre en faisant un grand intervalle, au moins une quarte. Et ben là, ce n'est pas l'objectif. L'objectif,
ça va être... faire OK.
Alors, oui, non, là, ça va être l'objectif, ça va être de rester en mécanisme 1, de rester donc, en voix de poitrine, pour ce Contrut de poitrine. Et bien, on a à la fois une caricature faite sûrement par quelqu'un de l'orchestre et une annotation sur la partition qui nous montre qu'on ne va pas chanter « Arrachons Guy ». Ah oui, rester sur le « i », c'est très bien pour la voix de tête. D'ailleurs, là, je viens de faire un craquage tout à fait symptomatique. Alors que, non, on va chanter... Et arrachons Guillaume à ses fers. Et Berlioz nous dit aussi justement que le I c'est bien pour la voix de tête, le O c'est beaucoup mieux pour la voix de poitrine. Et Bataille, donc l'élève de Garcia, puisqu'on se raccroche à Garcia, c'est le thème
Bataille,
du jour.
Oui.
Charles Bataille, Charles Delprat nous dit en 70 que chez Bataille, dans la classe de Bataille au conservatoire, on travaille beaucoup sur le port de voix. C'est-à-dire qu'on travaille justement sur cette continuité du geste vocal et pas sur. Ben, l'interruption dans l'intervalle pour pouvoir changer de registre. Il s'agit de rester là et c'est comme ça que Bataille entend éviter le couac, le couac dont nous parlait Michel tout à l'heure, entre le passage du mécanisme 1 au mécanisme 2, qu'il s'agit soit de camoufler ou d'éviter en restant dans le même mécanisme.
Je me suis posé la question, je ne sais pas si vous pourrez y répondre, de savoir si le succès de Gilbert Dupré dans les années 1830 a été un peu la cause de cet intérêt de l'Institut de France en 1840 pour la voix, jusqu'à appeler donc les scientifiques à, je cite, « déterminer par des recherches anatomiques, par des expériences d'acoustique et par des expériences physiologiques, quel est le mécanisme de la production de la voix chez l'homme et chez les animaux mammifères ». Y a-t-il un rapport ? Il y a au moins le contexte en commun.
À cette époque-là, il y avait beaucoup, beaucoup de livres et de méthodes qui paraissaient et des disputes.
Oui, on les a cités tout à l'heure, oui.
Ah oui, non, mais
tout à fait.
Il en paraissait deux ou trois par an. Et c'était absolument on ne comprenait pas du tout ce que défendaient les uns et les autres. Et je pense que ça fait partie des motivations de l'Institut de décider qu'on allait faire une sorte d'exploration des connaissances sur la voix.
Et quand Garcia-Fils vient en 1840 devant les académiciens, il vient avec des chanteurs faire une démonstration, ça se passe comment ?
Là, ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Il est venu avec quelques femmes, quelques hommes, et il dit lui-même, et c'est dans le rapport, il leur a demandé, sur une note donnée, de la chanter à une certaine intensité, enfin le plus fort possible, par exemple, et de bien prendre le souffle. Et il a mesuré la longueur du souffle en mécanisme 1, c'est-à-dire en poitrine, et en mécanisme 2, en voix de tête. Donc c'est la même fréquence produite donc, avec les cordes vocales, mais selon les deux types de mécanismes. Et après plusieurs essais, il était évident que ça tenait plus longtemps en voix de poitrine parce que l'accolement des bandes ventriculaires, enfin des cordes vocales, est parfait. Et donc, entre l'ouverture et la fermeture, ça s'occlusse bien. Alors que dans le deuxième mécanisme, c'est un petit peu moins bien assujetti. Il y a des fuites, un peu de fuite d'air. Et donc, il ne pouvait pas durer aussi longtemps. Donc ça a été absolument contrôlé. Alors, on nous dit qu'il y avait un pendule à la seconde qui mesurait le temps et que manifestement et statistiquement, il a montré qu'effectivement, il y avait deux façons de produire le son. La même note, au maximum d'intensité, et qu'on n'avait pas que le mécanisme permettait de tenir plus longtemps, moins longtemps, donc ce n'était pas le même mécanisme. Ça, il l'a montré.
Tout à l'heure, vous nous disiez qu'il invente plus ou moins un registre qui est celui de fossé de tête, qui vous semble, pour le coup, un terme un peu malheureux parce qu'il crée un certain nombre de malentendus.
Alors, il faudrait pouvoir regarder les livres.
Dans
la méthode du conservatoire, les registres sont bout à bout.
Oui.
C'est-à-dire, il y a Doré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et puis tout d'un coup, il y a un autre registre qui continue, puis après, il y a un autre registre. Garcia était le premier à dire, ben, y en a un qui va, par exemple, du plus grave jusqu'au La3, mm-hmm. et puis le deuxième, il prend moins grave et monte plus haut.
Mais il commence avant le La3, justement.
Il y a un recouvrement, et ça, personne ne l'avait fait avant.
Donc c'est le premier à penser le registre, effectivement, avec tuilage.
C'est ça. Et alors, le problème qui s'est mêlé à ça, c'est que ce registre, le deuxième, qui va plus vers l'aigu, pour un homme, ça s'appelle fossé. Et pour une femme, ça s'appelle tête. Alors, entre les deux, il a mélangé fossé-tête. Et ça donne l'existence à un registre qui n'existe pas. Puisque le plus aigu, c'est tout simplement le deuxième registre, le deuxième mécanisme. Et le plus grave, c'est le premier. Mais les chanteurs qui n'essayaient pas d'égaliser le timbre ou l'intensité, ils avaient vraiment deux voix différentes. Celui qu'on a entendu tout à l'heure jouait avec justement ces changements. Donc il est le premier à avoir bien spécifié que les deux mécanismes qui produisent la hauteur du son ont une partie commune du point de vue de la fréquence. Et que dans sa méthode, il fait travailler le passage de l'un à l'autre sur la même note. Il dit, ça fait un petit hoquet, il faut le travailler jusqu'à ce que ce hoquet disparaisse. Et alors, comme évidemment, il y avait l'habitude d'appeler telle partie de la voix fossé ou tête pour la femme, fossé pour l'homme, ça a donné fossé-tête. Mais il s'est rétracté plusieurs fois sur ce terme. C'est le seul petit problème, ou le petit bémol de la méthode de Garcia, c'est de ne pas avoir dit, il y a le mécanisme 1 et le mécanisme 2, point.
Ce que vous avez apporté ensuite dans les années...
Non, c'est pas qu'on l'a apporté, mais
non,
nous,
mais vous avez éclairci le...
On a voulu écarter les adjectifs utilisés par les chanteurs, parce qu'ils étaient liés à des esthétiques, à des manières de chanter, qui faisait sens pour les chanteurs. Mais pour nous, on est au niveau de la production du son, donc c'était un ou deux, avec une partie commune.
Et dans l'introduction de sa grande publication en 6 volumes, donc Charles Bataille, qui continue et perfectionne encore le laryngoscope avec un système, le problème c'était la lumière. Hein,
Charles Bataille était donc un élève. Hein,
qui était un élève, et ce médecin, et donc qui est le problème de Garcia au départ quand il est en Angleterre, c'est qu'il fait 2 jours par an assez beau pour qu'on puisse se regarder le fond de la gorge, alors que Bataille va trouver des systèmes pour ça. Et donc en 1863, dans l'introduction, justement, lui demande qu'on abandonne les étymologies de fossé. Que vraiment on se débarrasse de ce problème-là dans l'étude scientifique, même si bien sûr, après, quand on veut parler esthétique, libre à chacun.
Ça, c'est difficile.
Pour le coup, tous les chanteurs des années 1840-1850 n'étaient pas archi-sensibles à cette approche physiologique de la voix. Gilbert Dupré, qu'on a cité tout à l'heure, par exemple, était même assez moqueur envers l'invention du laryngoscope.
Oui. On va avoir dans les méthodes de chant petit à petit quelques pages qui vont continuer de montrer quelques écorchés de la face, des choses, avoir une dimension qui est souvent pseudo-scientifique et qui est en fait rarement bien raccrochée à la façon dont on parle de la voix derrière. Voilà, ça continue jusqu'à aujourd'hui très bien à coexister. On peut s'appuyer sur des recherches de plus en plus fines, des techniques d'investigation de plus en plus nombreuses. Et c'est peut-être l'occasion de citer Guy Cornu qui nous a quitté récemment et qui avait diriger un ouvrage faisant un nouveau bilan, là où on a d'autres choses à rajouter au laryngoscope, hein, pour aujourd'hui étudier la voix humaine, mais ça reste difficile. Il faut reconnaître que la recherche se focalise là avec des laboratoires. Donc on a parlé du LAM, il y a aussi évidemment le Gipsa Lab et 2-3 personnes qui travaillent parfois du point de vue anthropologique plutôt. En tout cas, voilà, ce qu'on peut dire, c'est décrire des phénomènes extrêmes, ce qu'on vient de faire, hein, en parlant de changement de mécanisme, en parlant du contrôle de poitrine. On a du mal quand même à rentrer dans la finesse de ce qui se passe artistiquement, hein. C'est quelque chose d'encore beaucoup qui n'est pas du tout pathologique, qui est très difficile à saisir. Et donc les recherches progressent beaucoup et elles sont encore très très loin de ce dont on aurait besoin pour pouvoir décrire l'art du chant comme étant un corpus, une science exacte, hein, dont il faudrait simplement faire la transposition pour l'expliquer, la transposition didactique pour l'expliquer aux élèves. Non, c'est encore un univers artisanal, et donc ce qui justifie que pédagogiquement on s'appuie ou pas en fonction de l'élève, en fonction du professeur, sur ses connaissances. Maintenant, ça ne fait pas de mal de se faire une représentation qui soit un peu plus exacte, un petit peu moins fantasmatique quand même.
Mais non, pas du tout. De même qu'un poète n'a pas besoin de connaître la physiologie du cerveau pour faire des vers, de même, il est inutile de savoir l'anatomie des organes vocaux pour chanter.
Donc ça, c'est Gilbert Dupré dans le texte,
voilà,
hein, c'est ça.
Voilà, ouais. Gilbert Dupré.
Alors que Manuel Garcia Fils répond, les timbres font si essentiellement partie du discours, ils sont la condition si vraie d'un sentiment sincère qu'on ne saurait en négliger le choix sans tomber infailliblement dans le faux. Ce sont eux qui révèlent le sentiment intime que les paroles n'expriment pas toujours suffisamment et que parfois même elles tendent à contredire. Et ça, ils sont d'accord là-dessus, puisque Gilbert Dupré nous disait l'intention d'une note, on n'est pas des croque-notes, hein, on doit produire du sens.
On pourrait écouter Rita Gör chanter Le Roi 10 en 1952, puisqu'elle avait elle-même fait l'objet d'un certain nombre d'observations tomographiques de la part de Raoul Husson.
C'est ça, la possibilité à ce moment-là d'étudier toutes les masses de chair dans la gorge, et plus seulement le larynx seulement, permet à Raoul Husson de montrer à partir de quelques exemples dans la troupe de l'Opéra de Paris, en train de chanter différentes voyelles, pas seulement un i qui va permettre de remonter le larynx et de bien le voir au laryngoscope, ça va nous permettre de voir que cette personne qui chante les grands mezzo lyriques, hein, ce qu'on appelait le grand soprano auparavant, donc quand même des rôles avec beaucoup de graves, une voix très ample, eh bien n'utilise pas le mécanisme 1 purement, elle ne change pas. Elle réussit à descendre très grave, et ça, ce sont des spécificités individuelles.
Oui, ça peut être de naissance.
Voilà, donc qu'on peut enfin étudier avec un nouvel outil.
Après 1854, le laryngoscope, il a été perfectionné par les élèves de Garcia Fils. Il y a la version augmentée de Charles Bataille.
Oui, c'est ce que disent Pierre. Il a été perfectionné puisque il y a eu un meilleur éclairage, c'est ça.
Puis après, on a attendu la stéréoscopie, mais un certain temps pour pouvoir s'adapter aux fréquences très élevées et voir à l'œil nu. Ou pouvoir maintenant ralentir la vidéo, bien sûr.
Moi, j'ai encore subi dans mon enfance, enfin dans ma adolescence, on attrape la langue avec
un coton,
un torchon, puis on regardait avec le petit miroir. Aujourd'hui, évidemment, on a d'autres outils.
Je citais tout à l'heure la proposition de l'Institut de France de travailler sur les mécanismes de la voix, y compris des animaux mammifères. Il y avait eu des expérimentations animales à l'époque aussi.
Alors oui, c'est sûr que on avait quand même bien du mal à voir ce qui se passait. Et donc, les exemples, par exemple, de Didet et Petrequin, dans les années 1830, présentaient des mémoires à l'Académie sur le fait que si je prenais un chien et que je lui cousais la mâchoire sur le poitrail, eh bien, au bout d'une semaine, eh bien, il n'aboyait plus. Alors, qu'est-ce qu'on en déduisait ? Que l'extension qu'on provoquait sur un des plis vocaux, mais quelque part empêcher la phonation et puis alors si on évidemment si on quand on réparait le chien ça réparait la voix, donc on en était là hein, d'arracher une patte et de lui dire saute, d'arracher une deuxième patte et de lui dire saute, évidemment qu'on faisait sur des animaux pas tout à fait consentants, alors que Manuel Garcia lui se prenait lui-même comme cobaye, n'est-ce pas, et essayait de pas se blesser.
Oui, les cochons ont beaucoup payé aussi hein, pour
c'est ce genre d'expérimentation.
Oui.
Pauline Viardot, dont nous habitons ce matin la villa pour cet enregistrement, pratiquait le laryngoscope, on sait quelque chose de ça ?
Moi, je n'ai rien lu là-dessus.
Oui.
Elle chantait.
Elle se posait des questions d'agilité de la gorge quand même.
Dans Fidelio, elle chantait avec son frère aux États-Unis, elle chantait. Alors, il faut dire que quand on a, alors je parle sous le contrôle de notre collègue italien, quand on a toute la bibliographie de ce qu'ont écrit les Garcia, père, fils, et puis petite fille, Louise-Hérite Viardot avec cette méthode, c'est vrai qu'il y a Louise-Hérite Viardot qui va enseigner après en Russie, et bien en fait ça se complète sans se recouper. Hein. Ce que l'un a fait, par exemple, Garcia père publie des vocalises, Garcia fils dit, bon moi je ne vais pas faire des vocalises, je vais vous expliquer la théorie. Et puis ensuite, Louise-Hérite Viardot va sortir des vocalises, pendant que Pauline Viardot, elle, édite du répertoire, le répertoire qu'elle fait travailler à ses élèves avec des annotations précises. Et puis, si vous voulez comprendre les annotations, il faut se référer à d'autres auteurs.
Oui, donc elle se suffisait de l'enseignement de son frère disponible là pour.
Ce qui est fait n'est plus à faire, c'est une œuvre contributive.
Bonjour, Georges Chaminet.
Bonjour.
C'est grâce à vous que nous sommes ici. C'est aussi grâce à vous que cette villa Viardot a été restaurée. Et. C'est grâce à vous que le laryngoscope est ici.
Il sera ici, il va arriver très très bientôt. Bon, tout d'abord, je voulais remercier une fois de plus Métaclassique et ce partenariat maintenant qui dure depuis quelques années.
Depuis la naissance de Métaclassique
voilà,
en 2019.
Donc ouais. Avec le Centre Européen de Musique. Et je pense que Pauline, là où elle est, doit être absolument ravie et qu'on ait dédié cette émission à son frère, qu'elle adorait. Elle a eu la chance de pouvoir assister aux grandes commémorations à Londres du centenaire de la naissance de,
en 1905,
de Manuel
donc,
Garcia. Ouais. Absolument. Et Pauline, naturellement, avait une tendresse toute spéciale pour cette maison. Et Bougival a été très vite dans le périple de la famille Garcia, puisqu'ils ont habité avant à côté de l'église dans la Garenne. Et après, donc, à partir de 1873, ils étaient ici avec son mari et naturellement avec l'ami de toujours qui a vécu plus de 40 ans avec eux, Ivan Turgenev. Donc, ce jour est un jour très, très beau pour le Centre européen de musique de dédier cette émission à cette saga Garcia qui a complètement bouleversé l'histoire de la musique et l'histoire du chant. Mais qui étaient tous des polymathes. Même la Malibran, qui malheureusement est décédée très très jeune, mais ils étaient chanteurs, ils étaient pédagogues, ils étaient instrumentistes. C'est le cas de Pauline, nous ne l'oublions pas. Elle était une pianiste remarquable qui accompagnait son père, les classes de son père à l'âge de 10 ans. Donc elle a vu passer tout ce que l'Europe à l'époque comptait de grands chanteurs. Mais également, comme vous le savez, dessinatrice, épistolaire, polyglotte, et celle que j'aime appeler la mère Europe. Et nous avons cette chance inouïe d'avoir récupéré une collection unique qui arrivera et qui sera ici à la Villa Viardot, qui s'appelle la Memorabilia Garcia, où parmi des centaines d'items qui n'ont jamais été vus par personne et qui ont été recueillis pendant plus de 200 ans par la famille Garcia. Et donc, grâce aux héritières d'un côté de Pauline Viardot, Sandra Mambouri, et du côté de Manuel Garcia fils, la seule qui porte encore le nom Garcia, Diana Garcia, qui habite le Canada, et donc qui possède cette collection, et grâce à elle, et cette collection, aujourd'hui, est propriété du Centre européen de musique.
Donc, par jeu de miroir, on va pouvoir voir le larynx de Manuel Garcia.
Absolument.
Fils, alors, c'est-à-dire le miroir qui a vu son
larynx. C'est le larynx, c'est le larynx original, j'allais dire. C'est le laryngoscope original, donc, de Manuel Garcia, qui a été présenté à l'Académie de Londres, et donc à laquelle il appartenait, comme vous le savez, à la Royal Academy of Sciences.
Oui, parce que donc il avait déménagé entre-temps, hein, peu de temps avant.
Bon, Pauline aussi, vous savez que oui. Londres, même si Pauline n'aimait pas les Anglais et n'aimait pas beaucoup Londres, mais Londres a été à un moment donné pour la famille Garcia un lieu de fréquentation et de résidence. Je pense que pour Pauline, et là où nous sommes dans une de ses maisons, n'oublions pas que les salons de Pauline ont été certainement le foyer d'une pensée européenne, culturelle européenne, soit rue de Douai à Paris, soit ici à Bougival, soit également à Baden-Baden, quand Louis Viardot et Pauline s'exilent au moment de la prise de pouvoir de Napoléon III, et partent donc vivre à Baden-Baden. Et là, également, il y a quelque chose d'absolument étonnant, et c'était la force de cette femme, le charisme de Pauline Viardot. Vous aviez le roi de Prusse dans le même salon, avec Liszt, avec naturellement Turgenev et beaucoup d'autres grands esprits, mais vous aviez aussi Bismarck, et vous aviez aussi Bakounine, dans le même salon. Et avec le fameux orgue Cavaillé-Coll qu'elle avait demandé au facteur Cavaillé-Coll de faire pour son appartement rue de Douai et qui après est parti à Baden-Baden et que aujourd'hui se trouve à l'église de Melun, tout près d'ici.
Pour bien saisir aussi l'ambiance vraiment très artisanale dans laquelle ce laryngoscope est confectionné, grâce à Thomas Cousin, on peut lire sur le site du Centre européen de musique une lettre que Manuel Garcia fils adresse en 1860 à Dr Larré et qui relate les différentes étapes de l'invention qui se font entre Paris et Londres. Il dit « Voilà, l'idée de me servir de miroir pour étudier l'intérieur du larynx pendant l'acte du chant m'était venue depuis longtemps et à différentes époques, mais toujours je l'avais repoussée, la croyant impraticable. Ce ne fut qu'en 1854 que me trouvant en vacances à Paris pendant le mois de septembre, je résolus d'éclaircir mes doutes et de voir ce que mon idée avait de réalisable. J'allais demander à Charrière s'il n'aurait pas un petit miroir qui, attaché à un long manche, pût servir à examiner le gosier. Il me répondit qu'il avait un petit miroir de dentiste qu'il avait envoyé à l'exposition de Londres en 1851 et dont personne n'avait voulu. Je l'achetais, je crois pour 6 francs, bon, j'ignore l'équivalent contemporain, mais muni d'un second miroir de main, je rentrais chez ma sœur, très impatient de commencer mes essais. Je plaçais contre l'aluette le petit miroir à main, je vis le larynx béant et tel qu'il est décrit dans les 3 premières pages du mémoire que vous connaissez.
Absolument, c'est fascinant. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que nous sommes en présence, véritablement, de ce que je disais tout à l'heure, d'une saga de polymathes. Et la famille Garcia, le père, naturellement, tout à l'heure, on entendait le barbier de Séville, n'oublions pas qu'il a été le premier comte Almaviva et que probablement l'air avec guitare, c'est de sa propre composition et pas celle de Rossini.
Ah oui.
Et il a été l'Othello. Othello est écrit pour Manuel Garcia.
Et d'ailleurs,
et tout à l'heure, on parlait de Pauline Viardot aux États-Unis. Elle n'a jamais chanté aux États-Unis. Pauline Viardot avait 4 ans. Quand elle est partie avec la famille Garcia, invitée par Lorenzo da Ponte. Et c'est ça qui est absolument fascinant chez cette femme, c'est qu'elle est sur les genoux de Lorenzo da Ponte à l'âge de 4 ans, et elle finira ses jours au boulevard Saint-Germain à Paris, disant à Stravinsky, qui est en train de commencer la composition du Sacre du printemps, « Vas-y, c'est génial ».
Sans doute la seule à avoir connu les deux.
Absolument. Ouais. Et puis, ce parcours, pardon, simplement pour dire aussi que Pauline, ne l'oublions pas, va être la dédicataire de pas mal de répertoires du 19e siècle.
Et c'est d'ailleurs avec un opéra qui a été écrit pour elle que nous allons nous quitter. On avait raconté dans l'épisode vénéré de Métaclassique, en effet, sa relation privilégiée avec Camille Saint-Saëns.
Privilégiée et de telle sorte que Camille Saint-Saëns est déprimée au moment où le directeur de l'Opéra de Paris refuse Samson et Dalila, et elle monte ici
avec
décor et costumes. Ouais. Et Samson et Dalila avec ses élèves, et elle fait la surprise, une journée de dimanche comme aujourd'hui, d'offrir à son grand ami Camille Saint-Saëns l'opéra, et c'est là où elle chante Dalila. La seule fois, puisqu'elle ne l'a jamais chanté sur scène, mais naturellement, Dalila, Samson et Dalila, lui est dédiée. Tout à l'heure, on parlait de Berlioz, n'oublions pas tout le travail qui a été fait en commun entre Berlioz et Pauline Viardot pour la nouvelle version de l'Orphée et Eurydice de Gluck, qui a été sans doute un des rôles les plus importants de Pauline. Mais là aussi, quand on parle de tessiture, n'oublions pas qu'elle a été Dalila, mais qu'elle a été aussi Norma, qu'elle a été aussi Rosina dans Le Barbier de Séville. Et sa Norma, qu'elle crée pour la première fois à Leipzig, va devenir la source d'une des plus grandes amitiés entre femmes compositrices, donc Clara Schumann et Pauline Viardot.
On va se quitter donc avec la version de Samson et Dalila de Rita Goehr, une version de 1959 repiquée par Hervé David. Il me reste à vous remercier, Jean Cheminet. Merci beaucoup, Michel Castellango.
Merci à vous.
Merci Pierre Giraud et merci Alessandro Patamini.